Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, la presse. Au programme, repenser l'obsession du rangement, celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenus sans-abri et une seule poubelle pour un meilleur tri. Bonne écoute.
Repenser l'obsession du rangement. Un texte de Florence Dancause, paru le 5 février 2023 dans La Presse. La reine du rangement, la consultante japonaise Marie Kondo, a récemment avoué que sa maison est en désordre. Depuis la naissance de ses enfants, et particulièrement de son troisième, le rangement et l'organisation ne trône plus au sommet de sa liste de priorités. Cette confidence a réjoui de nombreuses personnes qui ressentent une pression d'avoir une demeure toujours en ordre. L'arrivée de son émission sur Netflix il y a 3 ans, L'ordre des choses, dans laquelle elle visitait des familles américaines pour les aider à trier leurs choses, à les organiser et à mettre de l'ordre dans leur maison, lui avait donné une notoriété planétaire et avait fait beaucoup réagir. Les réseaux sociaux étaient alors inondés de commentaires la dénonçant. La série suivait la publication du livre « Le pouvoir étonnant du rangement » qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Elisabeth Alessio, organisatrice professionnelle et propriétaire de Mademoiselle Range-Tout, rappelle qu'on ne peut pas prétendre avoir une maison organisée à tout moment. On s'attend à voir une image parfaite en tout temps, comme sur Instagram ou Pinterest, alors que ça ne représente pas la vie de tous les jours, dit-elle. La pression est sociale, confirme la psychologue Sylvie Boucher. C'est valorisé dans notre société d'avoir une maison bien rangée. Une pression que ressentent davantage les femmes, ajoute-t-elle. Ce propos fait écho aux organisatrices professionnelles interrogées qui disent être contactées en majorité par des femmes et plus particulièrement des mères de famille. C'est aussi une question d'identité sociale. La tenue de la maison est encore associée à la femme. « Si la maison est en désordre, qui va-t-on blâmer? La femme, » dit Sylvie Boucher. Florence Marquis, propriétaire de La Casita, qui offre un service d'organisation à domicile, avoue qu'elle contribue peut-être à cette pression en diffusant des images de pièces parfaitement rangées. « Si je ne publiais pas des photos parfaites sur Instagram, je n'aurais pas autant de business. » Il y a vraiment un cercle vicieux qui est associé, concède-t-elle. Il y a comme une dichotomie entre vouloir avoir une société qui est plus ouverte et plus transparente, mais on ne veut pas tant que ça voir le moins beau, souligne Florence Marquis. Jeanne Soubry a succombé à cette pression du rangement. Elle succombe encore, dit-elle, mais elle s'est défaite de l'idée d'avoir un espace toujours organisé. La jeune femme se permet maintenant de laisser traîner ses livres et ses papiers, très présents chez elle, puisqu'elle fait une maîtrise en littérature. Avant, elle rangeait chaque objet à sa place au moment où elle avait fini de l'utiliser. J'ai réalisé que ce n'est pas grave si des choses traînent, et ce n'est pas possible d'avoir un appartement propre tout le temps, indique-t-elle. Mais le jugement des autres l'effraie encore un peu. Si la famille débarque à l'improviste, j'angoisse, illustre-t-elle. J'ai l'air de quoi? Si ma vaisselle n'est pas rangée, mon lit n'est pas fait, Il y a une pile de livres qui traînent. Des attentes réalistes? Le mot d'ordre est « équilibre », croit la psychologue Sylvie Boucher. Si c'est assez en ordre pour qu'on gagne du temps et qu'on ne cherche pas nos bas ou nos clés, c'est bon. Le rangement et l'organisation nous donnent une impression de contrôle sur notre environnement, indique la psychologue. Ça peut baisser notre anxiété. Mais attention aux dérives. Si on est très anxieux et qu'on fait du rangement pour baisser notre anxiété, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Et si un espace, un peu en désordre, provoque beaucoup d'anxiété, ce n'est pas mieux, rappelle la psychologue. Le rangement libère notre esprit, c'est sûr, mais on doit rester flexible, explique Sylvie Boucher. Il faut modérer nos attentes, croit Florence Marquis. Il faut y aller tranquillement. Ce n'est pas vrai qu'on devient organisé du jour au lendemain, dit-elle. Et mieux vaut y aller une pièce ou même un tiroir à la fois si on veut se lancer dans l'organisation de notre demeure, conseille-t-elle. Est-ce possible d'avoir une maison rangée, même avec des enfants? Oui, disent les deux organisatrices professionnelles. Le tout passe par un bon système de rangement adapté à chacun, croit-elle. Ayant quand même de l'expérience avec les familles, pour en avoir fait une cinquantaine environ depuis que j'ai démarré l'entreprise, si on intègre des systèmes qui fonctionnent, ça peut vraiment perdurer dans le temps, dit Florence Marquis. La place du rangement dans notre vie. Selon l'organisatrice Elisabeth Alessio, l'organisation est un outil au quotidien pour se concentrer sur des choses qui sont plus importantes pour nous, avoir plus de temps pour nous, pour notre famille et pour nos passe-temps. Selon la propriétaire de Mademoiselle Rangetout, l'organisation devrait disperser la charge mentale de la femme aux autres membres de la famille. C'est mettre un système en place pour que tout le monde puisse s'arranger dans son propre espace et puisse contribuer à l'organisation de la maison, dit-elle. Combien de temps devrait-on consacrer à ordonner nos espaces? Ça devrait faire partie de notre quotidien. On peut prendre un peu de temps tous les jours, comme 15 minutes, pour faire un tour rapide des pièces et ranger les objets, indique Elisabeth Alessio. Jeanne Soubry passe moins de temps qu'avant à ranger. Ça pouvait aller jusqu'à 2 heures par jour. Maintenant, peut-être 2 heures par semaine, dit-elle. J'ai accepté que j'aime le ménage et le rangement, que j'y accorde de la valeur, mais j'accepte aussi de dériver de ça et de laisser traîner des choses pour quelque temps. On ne peut pas nier notre existence dans un lieu, s'exclame l'étudiante. On ne peut pas effacer les traces de soi. C'était Repenser l'obsession du rangement, un texte de Florence Dancausse, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenus sans-abri. Un texte d'opinion de Caroline Touzan, paru le 28 décembre 2022 dans La Presse. 10 ans. Dire qu'Elena Sauvageau est patiente et déterminée relève de l'euphémisme. Cela a pris une décennie pour que son projet de 30 logements supervisés destinés à de jeunes sans-abri, pour la plupart des enfants de la DPJ devenus adultes, se concrétise à Laval. « Ici, c'est notre pièce la plus importante », souligne la femme de 44 ans en nous faisant visiter l'immeuble qui a accueilli ses premiers locataires l'hiver dernier. Nous sommes dans le salon L'Accalmie, situé au rez-de-chaussée. L'endroit est paisible et chaleureux. Un sapin de Noël trône au fond de la pièce. Un lit pour bébé est installé dans un coin, car trois logements sont réservés à de très jeunes mères et à leurs bébés. Une station artistique équipée de toiles et de peintures est aménagée près de la fenêtre. Les jeunes locataires viennent y chercher de l'aide à toute heure du jour ou de la nuit. Un intervenant est présent au salon L'Accalmie 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. C'est ce qui nous distingue des autres projets d'appartements supervisés. C'est la richesse du projet, dit Elena Sauvageau, directrice générale de l'Auberge du Cœur, L'Envolée et des habitations du même nom. Car des crises d'anxiété, ces jeunes qui ont connu la rue en font pratiquement toutes les nuits. Nos jeunes sont victimes de leur histoire, de leur famille, résume Madame Sauvageau. Ils ont été victimes d'abus, négligés ou carrément abandonnés durant l'enfance. Les nuits sont plus occupées que les journées et les journées sont très occupées, lâche-t-elle. Certains locataires ont un trouble du spectre de l'autisme, d'autres d'importants troubles psychiatriques. Plusieurs ont des idées suicidaires. C'est lourd, explique Madame Sauvageau, au point où certains locataires font une intégration progressive à la manière de l'intégration d'un poupon à la garderie. 1 heure la première journée, 2 heures le lendemain, etc. Pour la directrice générale de l'organisme communautaire, il était hors de question de leur construire un bel immeuble si, au bout du compte, ces jeunes adultes étaient laissés seuls avec leur mal-être entre les quatre murs de leur logement. Les jeunes ont besoin d'un toit, oui, mais ils ont autant besoin d'un suivi intensif, sinon cela aurait été un échec. L'idée de ce projet a germé en 2012 quand Elena Sauvageau travaillait à l'Auberge du Cœur L'Envolée, située dans le quartier Sainte-Rose, qui compte 16 places pour des jeunes de 16 à 23 ans. Selon les règles des Auberges du Cœur, les jeunes peuvent y rester 1 an. Or, à Laval, c'était déjà le cas il y a 10 ans et la crise s'est exacerbée depuis. Il y a un manque criant de logements abordables. Et les jeunes qui sortent des centres jeunesse n'ont pas de famille ni de contact pour les aider. Encore moins de dossiers de crédit. Ainsi, après leur année à l'Auberge du Cœur, ils n'arrivaient pas à se reloger. À L'Accalmie, les jeunes peuvent rester 3 ans. Ils sont admis jusqu'à l'âge de 30 ans. Nos jeunes se méfient beaucoup des adultes parce qu'ils souffrent presque tous d'un trouble de l'attachement, explique Madame Sauvageau. C'est long, créer un lien avec eux. En les gardant 3 ans avec nous, cela nous permet de les stabiliser. Les locataires doivent avoir un projet de vie, que ce soit de retourner aux études ou de trouver un emploi. La participation à des ateliers de réinsertion sociale et à des soupers communautaires est obligatoire. C'est de ça qu'ils souffrent le plus, l'isolement. L'équipe d'intervenants leur offre toutes sortes d'occasions d'être ensemble pour créer des liens, nous dit Elena Sauvageau. Vous écoutez celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenus sans-abri. Un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 28 décembre 2022 dans la presse. Une cuisine commerciale a été aménagée dans l'édifice pour leur apprendre à bien se nourrir. Car ils ont beau être adultes, personne ne leur a montré comment fonctionnait une laveuse, un four, etc., ni comment faire l'épicerie. On doit tout leur montrer, indique Madame Sauvageau. Un intervenant a dû accompagner chez le coiffeur un jeune qui était anxieux à l'idée d'y aller puisque c'était sa première fois. Les jeunes paient 25 % du coût du loyer. Cela leur permet de mettre de l'argent de côté. On les force à épargner le quart de leurs revenus. Sinon, à leur départ, ils vont retourner à la rue faute d'avoir l'argent nécessaire pour payer le vrai coût d'un loyer, souligne Madame Sauvageau. Le jour de notre passage, nous croisons une jeune locataire au rez-de-chaussée. Notre présence la rend nerveuse. Elle nous observe avec méfiance, détourne le regard. La jeune femme a atterri dans la rue au tout début de l'adolescence et elle y est restée plusieurs années. À son arrivée ici, il y a 7 mois, elle avait une peur bleue des sous-sols et, comme tous les autres, de rester seule. Madame Sauvageau ne peut pas donner de précisions sur son cas pour ne pas briser le lien de confiance qui les unit. Disons qu'elle a vécu plusieurs grands traumatismes. 7 mois plus tard, la jeune locataire a une plus grande confiance en elle. Elle a trouvé un travail et fréquente le cégep. Elle arrive même à descendre au sous-sol de l'immeuble. Un jour, Madame Sauvageau lui a offert du matériel de peinture. La jeune femme s'est mise à peindre compulsivement pour calmer ses angoisses. La directrice de l'organisme a mis l'une de ses œuvres en vente dans un encan caritatif. « Ta toile est rendue à 600 $ », la félicite-t-elle au moment de notre passage. La jeune femme devait assister à l'événement bénéfice quelques jours plus tard, sauf qu'elle n'avait pas de robe. Madame Sauvageau lui en a offert une. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» lui a demandé la jeune femme en recevant sa robe neuve, probablement la première de sa vie. « Parce que tu en vaux la peine », lui a répondu Madame Sauvageau. Cela aussi, la jeune femme semblait l'entendre pour la première fois. Madame Sauvageau se destinait à travailler en violence conjugale quand elle a fait un stage d'éducatrice spécialisée, il y a 23 ans, à l'Auberge du Cœur. Elle est tombée en amour avec la clientèle et n'est jamais repartie. Enfin, sauf pour une année, pendant laquelle elle a travaillé dans un foyer de groupe d'un centre jeunesse, où elle a été rapidement découragée par la lourdeur bureaucratique. À l'envolée, tout est possible, tu n'es pas régi par un système, poursuit la gestionnaire. Les intervenants ont une bonne idée, on la réalise, on est souple. La quadragénaire a un nouveau défi de taille. En plus de diriger l'envolée, elle préside le réseau d'organismes et d'intervenants en itinérance de Laval. À l'heure actuelle, elle travaille à sauver le refuge d'urgence de Laval, ouvert durant la pandémie et installé dans un ancien couvent, propriété de la ville. 25 sans-abri y dorment chaque nuit et d'autres sont refoulés faute de place. On entend dire que la ville veut en faire un centre culturel, indique-t-elle. On veut nous relocaliser le plus tôt possible, mais la question c'est « relocaliser où ?» Et si on construit un nouveau refuge, ça va prendre encore 10 ans. Pendant ce temps-là, on fait quoi avec les gens ? On les envoie à Montréal, à l'urgence de l'hôpital ? C'était celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenue sans-abri. Un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 28 décembre 2022 dans la presse.
Une seule poubelle pour un meilleur tri. Un texte d'Ariane Lacourcière, paru le 6 février 2023 dans La Presse. Les bacs de récupération des matières compostables et recyclables ont disparu de l'aire de restauration du complexe Desjardins à Montréal et les taux de récupération ont conséquemment augmenté. L'établissement situé au centre-ville de Montréal a repensé la gestion des matières résiduelles pour la confier à une équipe de trieurs. Quand le public trie, c'est toujours contaminé, résume Sylvain Gauthier, conseiller à l'entretien des bâtiments du complexe Desjardins depuis 15 ans. Les trios de poubelles, matières recyclables, matières organiques et déchets ultimes, qui parsemaient l'aire de restauration ont ainsi été remplacés il y a un an par des bacs où tout est jeté pêle-mêle. Vous jetez, nous trions, dit l'affiche expliquant le fonctionnement du nouveau système au public. Les poubelles sont ensuite transportées au mini-centre de tri, aménagé dans un ancien local d'entreposage au sous-sol, où des employés, vêtus de longans et de tabliers, vident leur contenu devant eux pour en retirer les déchets et les matières recyclables. Restes de table, serviettes en papier et autres matières organiques sont pour leur part acheminés jusqu'à un triturateur, puis mis dans un conteneur et envoyé dans un centre de compostage à Berthierville. Le centre de tri a été conçu pour la récupération des matières compostables, dit Sylvain Gauthier, conseiller à l'entretien des bâtiments du complexe des Jardins. Les employés du centre de tri, au nombre de 1 à 4, selon les périodes de la journée, récupèrent ainsi les matières recyclables, notamment les contenants consignés, qui sont remis à la coopérative de solidarité Les Valoristes. Tout ce qu'on récupère ici, avant, s'est acheté aux déchets, souligne Sylvain Gauthier, précisant que la quantité de matière organique ainsi récupérée oscille entre 7 et 8 tonnes par semaine, alors que le complexe des Jardins n'est occupé qu'au tiers de sa capacité en cette période post-pandémique. Ce système de tri présente un avantage collatéral. Il permet de récupérer les cabarets, qui atterrissaient parfois aux poubelles, plus souvent qu'on pourrait le croire. « On perdait 2 000 $ de cabaret par année », s'exclame Sylvain Gauthier. Le taux de récupération des matières valorisables était de 10 % quand Sylvain Gauthier a commencé à travailler au complexe des Jardins en 2007 et n'atteignait que 47 % avant la pandémie. On savait que la foire alimentaire générait beaucoup de déchets, qu'il y avait peu de récupération, dit-il. La pandémie a été l'occasion pour le complexe des Jardins de rénover son aire de restauration et d'en modifier la gestion des matières résiduelles. Le système imaginé par Sylvain Gauthier, conçu sur mesure, a fait passer le taux de récupération des matières recyclables et compostables à 68 % en 2022 et à 95 % dans l'aire de restauration spécifiquement. Le projet de 600 000 $ a bénéficié d'une subvention de 293 000 $ de la Société québécoise de récupération et de recyclage, Recyc Québec. Son coût de fonctionnement, composé de salaires ainsi que du nettoyage et de l'entretien des équipements, s'élève à 50 000 $ par mois, soit 1,74 $ par kilogramme de matière récupérée. Il faut travailler à réduire ça, affirme sans détour M. Gauthier, pour qui la solution passe notamment par la participation des restaurants qui louent un espace au complexe des Jardins et qui assument ces coûts par l'entremise des frais de gestion qu'ils paient. Plus ils vont collaborer, plus leurs coûts vont baisser, dit Sylvain Gauthier, conseiller à l'entretien des bâtiments du complexe des Jardins. La tige métallique d'un contenant de nouilles d'une chaîne bien connue donnait d'ailleurs du fil à retordre à Pascal Olinga lors du passage de la presse au centre de tri. Ce serait plus simple, plus rapide s'il n'y en avait pas, confie-t-il, expliquant devoir la retirer pour ne pas qu'elle abîme l'équipement. L'utilisation de vraies vaisselles avait aussi été envisagée, mais écartée en raison du manque d'espace nécessaire, de l'affluence énorme lors des festivals estivaux et du fait que quelques 15 000 personnes travaillent en temps normal dans les différents immeubles du complexe des Jardins, dont un bon nombre remontent sur les étages avec leur repas, explique Sylvain Gauthier. D'autres options, comme doter l'aire de restauration de comptoirs avec du personnel qui reçoit les cabarets, ont aussi été écartés. L'innovation du complexe des jardins suscite déjà l'intérêt d'autres établissements montréalais, souligne M. Gauthier. Le système permet de détourner beaucoup plus de matières valorisables de l'enfouissement, mais il ne coûte pas moins cher que l'ancienne façon de faire, les prévient-il toutefois. Il faudrait que la redevance à l'enfouissement soit plus élevée au Québec, dit-il. Mais on ne le fait pas pour les économies, on le fait pour l'environnement. 50 000. Nombre de sacs de poubelles économisés par année par le complexe des jardins, un avantage collatéral de son nouveau système de gestion des déchets. 60 % proportion des matières organiques du complexe des jardins qui proviennent de l'aire de restauration, le reste provient du supermarché, de l'hôtel et des restaurants du complexe qui donnent sur la rue Sainte-Catherine et qui ont leur propre salle à manger. C'était Une seule poubelle pour un meilleur tri, un texte d'Ariane Lacourcière, paru le 6 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.